Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi à Kinshasa, 13h à Beni au Nord Kivu. Voici les titres de ce journal. Le président de la République réaffirme sa détermination à aller vers les élections dans les délais constitutionnels. Félix Antoine Tshisekedi l'a dit hier jeudi lors de son discours à la Nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance. L'insécurité à Beni au Nord Kivu, un enseignant et par ailleurs président des personnes vivant avec handicap, a été assassiné la nuit dernière dans sa maison par des bandits armés dans la commune de Moulekera. L'invité de ce journal est Augustin Mboula, un notable de Walikale au Nord Kivu. Il parle de l'importance de l'aérodrome de Kigoma Walikale, une infrastructure d'une grande importance pour le désenclavement de ce vaste territoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République réaffirme sa détermination à aller vers les élections dans les délais constitutionnels. Félix Antoine Tshisekedi l'a dit hier jeudi lors de son discours à la Nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance. Le chef de l'État a rappelé que l'année 2023 est une année des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois c'est des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, il a invité instamment la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. On écoute Félix Antoine Tshisekedi dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
L'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la Nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer pendant une période la noble charge de la conduite des affaires de la nation.
Martin Fayulu, Matata Ponyo et Délice Essanga, trois leaders de l'opposition, sont arrivés à l'hôtel du fleuve Congo, ici à Kinshasa, à la rencontre avec le président de la CENI ce vendredi. Moïse Katumbi est absent, s'est fait représenter par le secrétaire général de son parti, Dedonné Bolenge Tengue. Une rencontre qui rentre dans le cadre des consultations initiées par Denis Kadima avec la classe politique. Rejoignons sur place au fleuve Congo, hôtel de Kinshasa, où se tient cette rencontre notre reporter Jacques-Yves Molima qui nous fait le point.
C'est une toute première rencontre entre les présidents de la CENI et les leaders de l'opposition. Selon Denis Kadima, l'objectif est de rendre réel l'aspect inclusif des élections. En effet, comme vous le savez, ces leaders politiques s'opposent toujours contre les processus électoraux tels que pilotés par le bureau que dirige Denis Kadima. Hormis la récusation de l'actuel bureau, les leaders de l'opposition continuent d'exiger l'audit externe et crédible du fichier électoral qu'ils jugent non transparent. Notons que le dimanche dernier, lors de son discours sur la convocation de l'électorat pour l'élection des députés nationaux, le président de la centrale électorale avait annoncé cette rencontre. Selon des informations en notre possession, ces rencontres vont se poursuivre la semaine prochaine d'après des invitations délivrées à certaines personnalités politiques, notamment Adolphe Mouzitou et les délégués du FCC ainsi que ceux de l'Union pour la Nation. Depuis le fleuve Congo Hôtel, Jacques-Yves Molima Aouta, Radio Kapi.
Et puis, confusion à la tête de l'exécutif provincial du Tanganyika. La gouverneure Julie Ngungwa, déchue par l'Assemblée provinciale, continue de diriger la province. Confirmation de ce conseil technique qui indique que le gouvernement national n'a pas encore pris acte de cette déchéance. Une situation qui ne facilite pas la tâche au gouverneur à l'intérim, Ferdinand Massamba, de gérer la province du Tanganyika. Explication de Pone Munanga.
Certaines sources à Kalemie rapportent que la gouverneure déchue, qui se trouve actuellement à Kinshasa, autorise la sortie des fonds de la province à la Rawbank. Elle a même représenté la province du Tanganyika au forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite qui s'est tenu à Kinshasa. Les mêmes sources soulignent que Julie Ngungwa menace tout ministre provincial qui collabore avec le gouverneur intérimaire Ferdinand Massamba wa Massamba. Ainsi rapportent les mêmes sources, la majorité des ministres provinciaux du Tanganyika répondraient aux instructions émanant de la gouverneure déchue. Le conseiller technique de cette dernière rejette ces allégations. Cependant, il confirme que Julie Ngungwa continue de diriger le Tanganyika jusqu'à ce que les pouvoirs centraux prennent acte de cette déchéance. Valentin Ousseni.
Autant il y en a eu à l'élection des gouverneurs, donc il faut un PV de vote, mais également il faut une ordonnance chef de l'État, mais aussi pour la déchéance, il y a le PV de vote de motion et la prise d'acte du pouvoir central, soit du ministre de l'Intérieur, qui prend acte de la déchéance.
Nous ne sommes pas parvenus à joindre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour qu'il réagisse à ces sujets. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Insécurité dans la ville de Beni, au Nord Kivu. La nuit dernière, un enseignant et par ailleurs président des personnes vivant avec handicap a été assassiné dans sa maison par des bandits armés dans la commune de Moulekera. Le compte-rendu de ce drame avec vous, Blaise Makassi.
Il était 3h du matin lorsque des hommes armés non identifiés se sont pointés devant le domicile de la victime. Ils lui ont demandé d'ouvrir la porte de sa maison. Face à son refus d'obtempérer, ils ont forcé la porte puis extirpé le propriétaire avant de tirer à bout portant sur lui et de prendre la fuite. Selon le bourgmestre de la commune de Moulekera, le commissaire supérieur Dieudonné Ngongo Mayanga, les hommes armés ont donné l'impression de connaître la victime.
Ils sont arrivés juste au domicile de la victime. Ils l'ont obligé de sortir puisqu'ils l'ont appelé chef. C'est comme s'ils le connaissaient, comment il était chef. Et puis, ils lui ont dit, comme vous refusez de sortir, alors nous allons forcer la porte pour y entrer. Quand les messieurs sont sortis, bon, directement, ils ont tiré sur lui. Je viens d'y lier, on a récupéré le corps pour amener à la morgue.
Le porte-parole de la police dans la ville de Beni, Nasson Mourara, appelle la population au calme. Il indique qu'une enquête a été ouverte pour mettre la main sur les auteurs de cet acte ignoble. De leur côté, les personnes vivant avec handicap dans la ville de Beni regrette la disparition de celui qui était en première ligne pour la défense de leurs droits. Tous saluent son courage, son esprit d'ouverture, sa lutte contre la mendicité des personnes vivant avec handicap, mais aussi l'intégration de cette couche vulnérable au sein de la communauté et son auto-prise en charge. De Beni, Blaise Makassi, Radio Kapi.
Et toujours au Nord Kivu, à Goma, en bref, un groupe important de personnes s'est amassé dans la matinée de ce vendredi 30 juin devant l'entrée du site RVA de la Monisco dans le quartier Katindo. Composé essentiellement d'hommes et de femmes majeures, ces personnes arrivées pacifiquement se réclament des Wazalendo, c'est-à-dire des patriotes, répondant à un certain pasteur Ephraim Bissimwa, non autrement connu. Selon nos sources, ces personnes déclarent être venues offrir des sacrifices d'indépendance afin de libérer le pays. Ces sacrifices, quelques chèvres et moutons notamment, devaient être offerts dans l'enceinte de la Monisco à RVA, ont-ils déclaré auprès du service de sécurité de la Monisco. Aux dernières nouvelles, la police a prié les concernés de libérer les abords immédiats du site de la Monisco RVA. Cependant, ces personnes sont toujours rassemblées non loin de là. Le ministre de l'Industrie invite les sociétés chinoises à renforcer leur présence en RDC car le pays a besoin de leur expertise dans les secteurs industriels avec la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée mais aussi des capitaux et des infrastructures. Julien Paluku Kaongia l'a dit ce vendredi du haut de la tribune de la troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui se tient en Chine. Il a ajouté que grâce à la construction d'un empire économique fort avec la Chine en mettant à contribution le développement des zones économiques spéciales, la RDC sera à même de transformer localement ses ressources naturelles. Cela pour ainsi créer des richesses et de l'emploi. On écoute Julien Paluku Kaongia dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Nous avons déroulé plus ou moins les opportunités de la RDC en les présentant comme d'abord un pays au centre de l'Afrique avec 100 millions d'habitants, 100 millions de consommateurs, avec suffisamment d'opportunités qui sont reprises dans les plans directeurs d'industrialisation, à savoir les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, mais également les zones économiques spéciales qui constituent les composantes importantes de l'industrialisation du pays. Et donc, nous avons échangé autour de toutes ces questions avec les autorités chinoises qui veulent effectivement saisir cette opportunité de la deuxième, la troisième exposition entre la Chine et l'Afrique pour davantage renforcer leur présence en Afrique, parce qu'il ne faudra plus que nous continuions à exporter et nos ressources et toutes nos matières à leur établite, mais désormais inviter les entreprises chinoises à venir les transformer sur le sol congolais pour ainsi créer des richesses, pour créer des emplois et renforcer nos économies.
La table ronde sur l'électrification en zone rurale et périurbaine a fermé ses portes hier jeudi sous une note positive pour les 10 prochaines années. Plusieurs progrès sont déjà réalisés, à en croire la direction générale de ANSER, Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains. C'est notamment l'amélioration du cadre légal et réglementaire, l'achèvement de la politique nationale de l'énergie, ainsi que les investissements en cours impulsés par le gouvernement et les partenaires publics-privés. Cyprien Moussimar, directeur général de ANSER, donne ici un condensé des conclusions de cette table ronde.
La RDC dispose désormais d'un plan local d'électrification qui est plan décennal, prenant en compte les différentes zones géographiques, les différents usages d'électricité, les différents segments de marché et les différentes technologies. Ce plan est disponible sur le site internet de l'ANSER. À la suite de cet atelier, plusieurs recommandations ont été adressées au gouvernement congolais et spécifiquement à l'ANSER. Nous retenons ici la nécessité de mettre en place un cadre permanent d'échange pour la coordination des efforts des bailleurs de fonds impliqués dans la mise en œuvre du plan d'électrification dans lequel le secteur privé joue un rôle crucial. La GEA, co-organisatrice de cet événement, et nous-mêmes, restons mobilisés pour la création de ce cadre et ne manquerons pas de vous informer en temps voulu de sa forme, de sa composition et de son plan d'action prioritaire pour les 6 prochains mois.
Signifier aux maraîchers la décision du chef de l'État de sécuriser leurs sites d'exploitation qui sont spoliés par les tierces personnes dans l'interland de la ville de Kinshasa. C'est l'un des objectifs de la rencontre hier jeudi du ministre de l'Agriculture avec le maraîcher de Kinshasa sur instruction du président de la République lors de la 93e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 7 avril dernier. José Mpanda Kabangu leur a aussi annoncé la subvention de l'État congolais pour une grande production de produits vivriers. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
Le chef de l'État veut que les Congolais fassent l'agriculture pour qu'ils deviennent des millionnaires. Cela va les propulser. Voilà notre message. Les intrants que le gouvernement avait achetés pour faire ces champs, nous allons les remettre au privé que vous êtes. C'est vous qui allez faire les champs, nous ferons le suivi des semis à la vente, cela pour éviter la hausse des prix sur le marché. Vous allez cultiver du maïs, des produits vivriers avec l'accompagnement du gouvernement congolais. On vous remettra les intrants, comme ça les prix sur le marché ne seront pas exagérés. Partout au monde, l'agriculture est subventionnée par l'État. Le gouvernement donne les facilités. Si les intrants viennent de l'extérieur, ils seront exonérés. On ne paiera aucune taxe. Je sais qu'à la cité, vous avez des problèmes de forage. Nous voulons que le marché de Kinshasa soit inondé des produits vivriers pour que les Quinois mangent bien.
L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a, au cours de sa séance plénière hier jeudi, adopté la proposition de loi portant sur la détermination et la sécurisation des terres urbano-rurales et rurales de cette province. Cette proposition de loi est une initiative du Bureau diocésain de développement qui est un service technique de l'archidiocèse de Lubumbashi et endossée par le député provincial Thomas Lupata. Pour Lucienne Bouendoua, chargée de communication et plaidoyer au Bureau diocésain, cette adoption est une grande victoire, notamment pour les agriculteurs et autres autochtones qui se voient souvent chassés et dépossédés de leurs terres par des tierces personnes nanties. On écoute Lucienne Bouendoua, micro de Jean Gandou.
Tout est parti de la recherche d'une solution durable à la situation d'insécurité foncière que connaissent les petits producteurs familiaux, les agriculteurs, les délocalisations dues à l'exploitation minière, surtout que notre province est une province minière, et aussi l'accaparement des terres par les nouveaux riches, par les grands fermiers. Donc, les petits paysans n'avaient pas où faire valoir leurs droits, c'était vraiment des sans-voix. Alors, c'était crédit va permettre de déterminer les terres à vocation agricole pour la province et aussi de sécuriser les terres agricoles des petits producteurs, des communautés rurales et aussi d'avoir un cadastre agricole qui va gérer les terres agricoles telles que c'est dit dans la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture. La suite à cet édit, ça sera la vulgarisation de cet édit pour que les communautés puissent s'en approprier ainsi que les agriculteurs et pouvoir défendre leurs droits.
Actualité internationale.
La justice malgache a été saisie concernant la nationalité du président André Rajoelina. Depuis deux semaines, la divulgation sur les réseaux sociaux du décret de naturalisation française du chef de l'État malgache suscite la controverse dans les pays et au sein de la classe politique. Une plainte a été déposée hier jeudi au parquet d'Antananarivo, a indiqué la présidente de l'association ADM, Action pour le développement de Madagascar, et de la plateforme de l'opposition RMDM, diaspora basée en France.
L'invité.
L'invité de ce journal est M. Augustin Mboula, un notable de Walikale au Nord Kivu. Il parle de l'importance de l'aérodrome de Kigoma Walikale, une infrastructure d'une grande importance pour le désenclavement de ce vaste territoire. Pour le moment, les mouvements de vols sont suspendus pour des raisons de travaux de réhabilitation. La population parle déjà des désenclavements de cette région, d'autant plus que les routes sont très délabrées. Augustin Mboula s'entretient avec Denise Lukesso.
Monsieur Augustin Mboula, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en savez sur l'existence de l'aérodrome de Kigoma à Walikale?
Cet aérodrome de Kigoma à Walikale, c'était une vision donc, du gouvernement provincial qui voudrait, dans le sens de désenclaver les territoires de Walikale, parce que c'était un besoin des commerçants, c'était un besoin des habitants, avoir des routes pour désenclaver normalement cette partie de la province du Nord Kivu, qui dans son histoire reste le territoire le plus enclavé de la province du Nord Kivu. Il y a eu des visions des autorités provinciales pour désenclaver cette partie par rapport à la route Walikale Massissi-Goma, mais c'était juste un passage unique pour le gouverneur Gilles Paluku qui est passé par cette route. C'était pour les manifestations du 30 juin 2016. Mais depuis là, la route est restée encore délabrée. Il y a eu des efforts encore du gouvernement provincial militaire à travers le général Dima Kongba, mais la route jusque là n'est pas encore arrivée jusqu'à Walikale. Alors cet aérodrome pouvait jouer en tout cas un grand rôle sur l'économie des habitants, parce que si on n'a pas de route mais on a l'aérodrome, quand même ça pouvait jouer un grand rôle dans ce sens-là. Nous comme habitants, on s'en réjouissait déjà de ces atterrissages des avions qui venaient de temps à autre dans cet aérodrome. Malheureusement, les activités d'atterrissage ont été suspendues, c'est ce qui nous ronge.
Combien de rotations que vous avez enregistrées par le passé?
On a enregistré ici par le passé plus de 5 rotations ou atterrissages par jour. Et on s'enregistrait déjà de ça parce qu'il y a des marchandises qui venaient de Bukavu. Goma, il y avait déjà deux compagnies qui atterrissaient déjà dans cet aérodrome. Et là, ça nous réjouissait parce qu'on commençait déjà à manger les fretins de Goma. On appelait tout simplement et ça arrivait à temps opportun. Mais actuellement, les activités sont suspendues. On manque quoi faire. On n'a pas de route, on n'a pas d'aérodrome. C'est maintenant compliqué. La vie devient plus pénible que jamais.
Pas d'infrastructure routière dans le Walikale, ce qui enclave davantage ces territoires. Comment vous, en tant qu'habitant, vous évacuez les produits à partir de Walikale ou vers d'autres centres de consommation et vice-versa?
On a des difficultés énormes même pour l'évacuation des produits. Nous avons plusieurs produits ici localement. Vous allez vous imaginer même les produits miniers qu'on creuse à Walikale parce que c'est une zone minière. Pour faire parvenir à Goma, l'avion a déjà commencé à aider pour l'évacuation de ces minerais, mais aujourd'hui encore, c'est une souffrance pour les motards. Il faudrait transporter de Walikale à parvenir à Massissi jusqu'à Sake, Goma. C'est toute une vie pénible. Il y a des motards qui commencent à mourir même sur la route parce que la route est très délabrée. Transporter ça 50 kilos de Walikale jusqu'à Goma, c'est pas moindre. Dans ces gros bourbiers qui sont sur la route, c'est en tout cas une vie misérable. Alors, nous faisons nos mieux possibles. Certains commerçants qui veulent évacuer leurs produits, ils le font par moto ici jusqu'à Goma ou d'ici jusqu'à Bukavu. Les marchands qui sont ici, ils ne font que négocier les motards pour qu'ils leur parviennent leurs marchandises de Bukavu jusqu'à Walikale. Ils paient très cher. Et donc là,
combien la course, par exemple, sur moto?
Je peux estimer une moto peut payer 200$ de Hombo jusqu'à ici à Walikale. 200$. Imaginez combien il va aussi vendre au niveau local. C'est pourquoi le prix est à hausse, les habitants souffrent, ils n'ont pas d'argent. La vie devient en tout cas très misérable par rapport à cette situation.
Des rotations des avions sur la piste de l'aérodrome de Kigoma, ça avait un impact sur l'économie de la région. À quel niveau?
Quand même avec l'avion, il y a des marchandises qui arrivaient. Ça commençait déjà à jouer sur les prix ici localement. Ce n'était plus comme auparavant, dans ces quelques semaines qu'on assistait à ces atterrissages. Et ici, vous allez vous imaginer qu'il y a des poissons, des gros poissons qui venaient déjà de Goma pour ici. On vendait un poisson ici localement à 10 000 francs. C'était déjà un geste, un très beau geste pour la communauté parce que ça jouait déjà sur cette économie de la région ici à Walikale. Ces atterrissages, malheureusement, suspendus.
C'était une joie d'une courte durée.
Une très courte durée et nous voulons que les autorités puissent encore repenser vraiment à cette situation parce que avec cet aérodrome, d'abord, on était soulagés, mais si on continue à suspendre les activités d'atterrissage des avions, en tout cas, ça va encore plus rendre la population vulnérable et délaissée parce que nous, on est en tout cas très décis de cette façon-là d'agir de l'autorité de l'aviation civile pour avoir suspendu les activités de l'atterrissage au niveau de l'aérodrome pendant qu'il y avait déjà plus de 40 vols qui avaient déjà atterri dans cet aérodrome sans risque.
Monsieur Augustin Mboula, merci.
Augustin Mboula, notable de Walikale au Nord Kivu, était notre invité. Il s'entretenait à Walikale avec Denise Lukeso. Fin de ce journal, coordonné et supervisé par Alain Irung, Pierre Diassounoa a assuré la technique. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.